Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Startup, l'émission dédiée aux startups. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Nicolas Baudelot, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors vous êtes CEO et cofondateur de Medicalib.
Tout à fait. Medicalib, qui est une plateforme de mise en relation entre patients et professionnels de santé à domicile. On s'occupe de coordonner, quand il y a une sortie après une hospitalisation, le parcours de soins d'un patient. Ça, c'est notre activité historique qu'on a développée depuis 2017 et qui on a accompagné plus de 600 000 patients depuis notre création à trouver un professionnel de santé. Alors, quel qu'il soit, il y a infirmier, kiné, sage-femme sur la plateforme et on est présent sur plus de 4 000 villes en France et on s'appuie sur un réseau de 20 000 professionnels de santé.
Voilà. D'accord. Donc, création en 2017, c'est un site medicalib.fr sur lequel on peut se rendre.
Exactement. C'est un site sur lequel, en gros, chaque patient peut faire une demande de soins. Ça lui prend moins de 3 minutes. Et ensuite, nous, on s'occupe de lui trouver le professionnel de santé le plus proche de chez lui disponible en moins d'une heure.
Ah d'accord, en moins d'une heure. Donc, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'un kiné pour demain, je me suis fait mal au dos aujourd'hui, je vais sur la plateforme. Ça peut être en one-shot, juste une fois, une séance.
Ça peut être one-shot. La seule différence, c'est que les professionnels de santé qui sont sur la plateforme Medicalib, vous avez besoin d'une ordonnance pour l'avoir. Donc, il va falloir que vous passiez par un médecin, une infirmière, un kiné. Vous avez obligatoirement besoin d'une ordonnance d'un médecin pour ensuite aller voir un kiné ou avoir la visite d'une infirmière. Ensuite, sur les sages-femmes, c'est un peu différent en fonction des soins. Mais majoritairement, vous avez quand même besoin d'une ordonnance de la part de votre médecin pour en tout cas avoir un professionnel de santé qui se déplace à domicile si vous voulez que ça soit pas que ça soit pris en charge par la sécurité sociale en tout cas.
Et si on s'en fiche que ce soit pris en charge, on peut quand même faire une réservation et...
Vous aurez la possibilité de le préciser sur le site en quoi vous n'avez pas d'ordonnance, vous n'avez pas de en tout cas la mention à domicile parce que c'est la mention à domicile sur l'ordonnance qui va faire que vous allez être remboursé parce qu'il y a un dépassement pour d'honoraires pour le déplacement du professionnel de santé. Et à ce moment-là, le professionnel de santé vous fera payer son forfait directement.
D'accord.
Mais pas de carte vitale et donc pas de remboursement par la sécurité sociale.
Mais bon, après, c'est bon à savoir si on est coincé du dos. Parfois, ça peut arriver. Hein, le dimanche soir, on ne sait pas comment faire et on va sur
Exactement, ou même parfois, on peut, si on n'a pas la possibilité de consulter un médecin, une infirmière peut totalement, en tout cas, répondre aux premières interrogations. Hein, c'est exactement comme ça se passe, par exemple, aux urgences. Souvent, vous avez une infirmière de tri qui s'occupe d'orienter
Oui, il suffit de voir le chirurgien.
Exactement, pour vous dire, en gros, est-ce que c'est plutôt une urgence orthopédique ou générale, et en gros qui va classifier aussi l'importance et l'urgence de la prise en charge. Voilà.
D'accord, très bien. Alors, cette plateforme, évidemment, elle fait penser à Doctolib, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pour vraiment les soins.
À domicile. Donc en fait, il y a une grande différence qui est une différence notoire quand même si le principe est le même, hein, c'est toujours de la réservation de professionnels, en tout cas trouver le professionnel de santé disponible. Alors pour Doctolib, ça va être dans un cabinet, nous c'est vraiment le domicile. Et en gros, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Organiser en fait le déplacement d'un professionnel de santé au domicile d'un patient, ce n'est pas du tout la même chose quand le patient se déplace dans le cabinet d'un professionnel de santé. Et donc c'est pour ça qu'il y a une grande spécificité, une différence entre Doctolib et Medicalib, mais en tout cas on s'inscrit sur une sorte de simplification du parcours de soins. Ça a été la volonté de Doctolib et c'est notre volonté aussi, c'est de simplifier en fait les soins à domicile. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se développer de plus en plus, l'ambulatoire est de plus en plus plébiscité à la fois par les patients mais aussi par les établissements de santé en termes de gestion de coûts.
Bien sûr, les hospitalisations, il y en a beaucoup trop
voilà, il y a une volonté de réduire ces hospitalisations. Et puis ensuite les patients, nous on l'avait vu en fait en décembre 2019, on avait fait une étude comme quoi les patients préféraient faire leur convalescence à domicile.
Oui.
Pourquoi ? Parce que plus de confort, moins de risques.
Moins angoissant.
Exactement. L'univers hospitalier, il est très peu connu des gens, à part des gens qui y travaillent. Donc, il est angoissant. Il n'est pas obligatoirement. En plus, il y a eu souvent des histoires de maladies nosocomiales, des choses en gros de suraccidents. Et donc, on se dit que quand on reste à domicile, il y a plus de chances qu'on puisse éviter cette situation.
Alors aujourd'hui, les kinés, sages-femmes, infirmières et infirmiers qui sont sur Medicalib, ils se sont inscrits
C'est ça. En gros, chaque professionnel de santé a fait la démarche de s'inscrire sur la plateforme. En gros, c'est aussi notre business model, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des demandes de soins par rapport à un secteur qu'ils ont bien défini, par rapport à des caractéristiques de soins qu'ils peuvent prendre en charge, mais aussi on leur apporte des solutions un peu sur l'administratif. C'est pour ça qu'ils nous payent un abonnement. On leur simplifie en fait vraiment l'administratif et la mise en relation avec des patients qualifiés. Voilà.
Donc vous avez une équipe qui gère l'administratif ?
Alors non, en fait, on a développé des modules comme des modules d'agenda, de prise de rendez-vous, de pages professionnelles dédiées qui leur permet en gros, qui sont mis à leur disposition et qui peuvent gérer comme un passeport professionnel où en fait ils vont stipuler quels sont les types de soins qu'ils vont prendre en charge, l'âge des patients qu'ils veulent ou pas par rapport à des spécificités particulières. Et donc, ça leur fait gagner du temps parce qu'on va leur proposer seulement et uniquement des patients qui peuvent prendre en charge. Et donc, un des soucis et une des genèses de l'histoire de Medicaid, c'est la mère de mon cofondateur qui était infirmière libérale et qui recevait pas mal de demandes de soins sur les secteurs d'intervention sur lesquels elle ne pouvait pas intervenir parce qu'elle était infirmière à Nice. Et donc, elle intervenait sur un plus petit secteur. Souvent, les professionnels de santé libéraux, ils interviennent en tout cas sur des zones urbaines, sur une rue, sur un quartier, mais pas à l'échelle de l'ensemble de la ville. Et donc, en gros, elle perdait énormément de temps à répondre aux patients, à savoir où est-ce qu'ils étaient, pour savoir si elle pouvait les prendre en charge ou pas. Et c'était exactement la même chose aussi sur les types de soins. Tous les professionnels de santé ne sont pas obligatoirement à l'aise avec tout type de soins, et donc ils préfèrent réorienter vers d'autres professionnels de santé.
Et alors, aujourd'hui, justement, ce personnel soignant qui passe par Medicalib, ils travaillent à côté, ils ont des cabinets, par exemple, les kinés ou...
Oui, en fait, nous...
De l'aide à domicile ?
Non. Alors, les soins à domicile, alors c'est variable en fonction des professions. Ouais. En moyenne, on va dire que 90 à 95% des infirmières, en gros, ont une activité qui est majoritairement à domicile. Ouais. Les infirmières libérales, c'est 90 à 95% de leur activité, c'est que du domicile.
Oui, elles se déplacent tous les matins, elles vont voir Madame Intel, etc.
Exactement. C'est que du déplacement parce que souvent, c'est des patients qui ont une faible mobilité suite à une hospitalisation ou soit parce que c'est pas obligatoirement pratique en termes d'organisation. Ensuite, les kinés, c'est un petit peu plus différent. On va dire la moitié du temps d'un kiné est consacré aux soins à domicile.
D'accord.
Et l'autre majorité, plutôt la plus grande majorité, est consacrée en fait aux soins en cabinet. Ouais. On est à peu près dans les mêmes ensembles pour les sages-femmes qui font un peu moite-moite, quoi.
D'accord. Et comment ça se passe à Paris, par exemple ? Là, je pense à quelqu'un qui fait appel à un kiné à domicile. Quand on va chez le kiné, il y a une table exprès. Est-ce que c'est facile pour les kinés de manipuler ? Parfois, à Paris, les appartements sont petits, il n'y a pas forcément la place. Comment ça se passe ?
En fait, à la base, ce qu'il faut se dire, c'est que les kinés, lors de leur formation, sont entraînés, en tout cas sont formés, à faire de la rééducation, en tout cas tous les soins qu'ils pratiquent en cabinet, être capable de les faire à domicile. Donc en gros,
D'accord.
la contrainte du domicile n'est pas une contrainte, ils sont formés pour. Ensuite, après, oui, c'est sûrement un peu plus confortable parce qu'ils ont un espace qu'ils connaissent sur une table, mais le confort gagné pour le patient n'est pas négligeable sur le fait qu'il n'a pas à se déplacer,
oui.
sur certaines pathologie, quand vous êtes en rééducation, vous n'avez pas la possibilité de faire des kilomètres et
c'est
des
sûr.
Kilomètres, que ce soit même à pied ou en transport en commun. Et donc, c'est une vraie simplicité de rééducation. Et souvent, on le voit même avec les nouveaux kinés avec qui on travaille beaucoup, des jeunes kinés qui sont encore formés à travailler au domicile. Ils aiment bien alterner à la fois le domicile et le cabinet pour les patients, pour la rééducation, parce qu'ils ne vont pas faire travailler exactement la même chose.
D'accord.
En gros, ils vont pouvoir travailler sur le quotidien du patient au domicile, c'est-à-dire les gestes du quotidien. Et puis ensuite, quand ils vont faire venir, peut-être au bout de 2, 3, 4 séances, le patient dans un cabinet, là, ils vont faire travailler sur des gestes bien spécifiques où ils vont grouper, par exemple, ils vont cibler un groupe musculaire. Et donc, ils vont utiliser les avantages du cabinet à un certain moment, mais aussi les avantages du domicile pour voir en fait dans quel environnement le patient évolue. Et ça, c'est ultra important pour la convalescence.
Est-ce que vous avez vu une augmentation significative des demandes sur Medicalib pendant les confinements ?
Alors, au début, on a, lors du premier confinement, parce que maintenant, on a quand même pas loin d'un an et demi de recul sur le confinement, les différents confinements qu'on a eus. Le premier confinement, on a eu une baisse un petit peu de l'activité. Pourquoi ? Parce que l'activité des soins à domicile est très corrélée à l'activité des blocs chirurgicaux. Ouais. Et lors du premier confinement, il faut se rappeler,
tout a été gelé.
Et donc on a eu une baisse d'activité. Ensuite, cette baisse d'activité a très vite été compensée, en tout cas sur le côté infirmier, parce que les kinés étaient interdits d'exercer pendant le premier confinement. Les infirmiers, en fait, ont été pas rattrapés, mais en tout cas, il y a eu un complément d'activité qui a été fait sur le suivi Covid, c'est-à-dire tout le retour des patients qui, après une hospitalisation, avaient besoin d'avoir un suivi de façon assez régulier du Covid pour, en gros, suivre les constantes de respiration, voir s'il n'y avait pas une aggravation ou, si, ou en tout cas, s'il y avait une bonne convalescence et un bon recouvrement des fonctions respiratoires. Voilà.
D'accord. Donc au final...
Au final, l'activité s'est plutôt développée et à titre même, de façon plus générale, pour parler de Medicalib, ça nous a permis de développer une nouvelle verticale d'activité. C'est l'accompagnement des entreprises sur tout ce qui était phase de dépistage et de vaccination, qui représente maintenant une activité non négligeable de l'activité de Medicalib. On a toujours l'activité historique qui est la mise en relation à proprement parler entre particuliers et professionnels de santé. Et maintenant, on s'occupe d'accompagner avec des solutions un peu clés en main toutes les entreprises qui le veulent pour le dépistage. On en a fait beaucoup à partir de l'été 2020. Accompagner les entreprises pour garantir la sécurité en fait, du lieu de travail et garantir la sécurité et garantir l'activité. Parce que au mois d'octobre, en tout cas, c'était un... Septembre-octobre, c'était un vrai enjeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui devaient avoir l'activité en présentiel et on n'avait pas encore pu avancer sur la vaccination. Et donc, en fait, les tests étaient le seul rempart pour savoir si le lieu de travail était un endroit sûr. Et donc, on a mis en place beaucoup de prévention, d'astreinte, où en fait, on mettait à disposition des infirmiers qui venaient tester soit en antigénique, soit en PCR, directement dans les entreprises pour les accompagner et garantir la sécurité de l'ensemble des salariés sur site.
D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de la création là, de la maman de l'autre cofondateur qui était infirmière. Ouais. Alors, comment ce projet est né ?
Il est né d'une rencontre. Souvent, c'est un peu ça. Hein. L'histoire de start-up, c'est des rencontres. Je prendrai pas le fameux laïus de Edouard Baird, des rencontres des gens qui m'ont tendu la main, mais c'était un peu comme ça. En fait, moi, j'ai un parcours assez classique, école de commerce. J'ai fait de la finance de marché pendant 7 ans. Et puis, en 2016, j'ai voulu un peu changer. J'ai voulu monter ma propre boîte.
Vous n'étiez pas entrepreneur à l'époque?
Non, j'étais pas du tout entrepreneur. Je voulais l'être. Je réfléchissais à un business de monter un site de production de fruits et légumes sur les toits de Paris. C'était à l'époque où des modèles se développaient énormément au Canada ou aux États-Unis. Et puis, le fait d'un jour de l'an avec des amis à Prague, j'ai rencontré donc Mathieu Lardier, qui est l'autre cofondateur de Medicalib, qui commençait à développer ce sujet-là avec sa mère, qui, elle, était infirmière libérale à Nice. Et donc, on a échangé. Et du fait que moi, j'étais pompier en parallèle de ma vie professionnelle, j'avais quand même une bonne connaissance du secteur hospitalier, du retour à domicile, des chutes qui entraînaient en fait, qui étaient constatées par les infirmières qui nous appelaient et on emmenait les patients à l'hôpital. Donc je connaissais pas trop mal cet univers et j'ai considéré qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc j'ai arrêté mon projet et je me suis mis avec Mathieu et on a continué de développer ce projet-là sur toute l'année 2017. Vraiment prouver qu'on avait il y avait un vrai intérêt, voilà. Et on a fait notre première levée de fonds en fin d'année 2017.
Et donc cette levée de fonds, qu'est-ce que ça a donné ?
Ça nous a permis de nous professionnaliser. Alors, on n'était pas Steve Jobs dans le garage, mais on était en tout cas Mathieu, moi et un stagiaire dans son appartement pendant un an. Et donc, en gros, le fait d'avoir des moyens, on avait levé, on va dire maintenant, avant c'était un seed, mais c'était plutôt un pré-seed de un peu plus de 500 000 euros. Ça nous a permis de nous professionnaliser, ça nous a permis d'embaucher des gens et donc de commencer à structurer rapidement Medicalib sur l'année 2018 pour continuer d'accompagner de plus en plus de patients et voilà, on a toujours été les premiers à proposer un grand nombre de services auprès des patients et des professionnels de santé et ça nous a permis de continuer à essayer d'innover pour avoir plus de patients qui nous font confiance.
Vous disiez, vous étiez pompier avant, pompier volontaire,
ouais.
Vous l'avez été de nombreuses années.
Bah, je l'ai été, en fait, de mes 18 ans jusqu'à mes 36 ans. Je me suis mis en dispo là, en début d'année parce que c'était compliqué maintenant de gérer à la fois une entreprise avec plus de 20 salariés, des nouveaux projets, la période Covid qui a été compliquée parce qu'on a beaucoup été sollicité. Et toutes les équipes de Medicalib ont été très sollicitées. Donc voilà, c'était compliqué de gérer ça. Et en plus, de gérer des gardes de 12 heures ou 24 heures le soir ou le week-end, ça devenait un petit peu compliqué, sachant en plus que j'étais monté en termes de compétences dans l'échelle au niveau des pompiers.
Vous étiez à quel grade ?
J'étais adjudant, ça faisait un an que j'avais le grade d'adjudant, et donc des responsabilités en plus, des compétences en plus à maîtriser. Ouais. Et à un moment, il faut être aussi capable de se dire, voilà, je sais pas tout bien faire, donc je préfère arrêter quelque chose pour éviter de faire tout mal.
Parce que c'était deux passions, j'imagine.
Ouais, c'est deux passions qui sont complémentaires. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu l'activité de pompier. Je l'étais encore quand j'étais en salle de marché et trader. Ça fait appel à des intelligences qui sont totalement différentes. Je trouve que, et c'est peut-être pour ça que j'en ai peut-être moins besoin maintenant en tant que start-upper, c'est que c'est des intelligences très pratiques. C'est résoudre des problèmes au quotidien, c'est trouver des solutions un peu à la dernière minute.
Il faut que ça aille vite, en fait.
Voilà, il faut que ça aille vite. Alors que parfois, alors même si en salle de marché, il faut prendre des décisions rapidement, mais on a quand même le temps de prendre du recul, de faire des analyses. Moi, j'étais sur le marché du gaz et de l'électricité, donc de faire un peu d'analyse géopolitique, de voir un peu quel est l'impact d'une crise dans un pays, dans un endroit du monde sur l'approvisionnement en gaz ou en électricité, et donc d'émettre des stratégies. Quand vous êtes pompier, vous n'avez pas trop le temps, vous êtes beaucoup sur les réflexes, sur ce que vous avez appris, sur l'entraînement. Et sur la start-up, c'est un peu ça. C'est, en gros, il y a toujours quelqu'un qui vient vous solliciter pour avoir un avis. Vous n'avez pas obligatoirement toutes les informations, mais vous devez prendre une décision. Donc, c'est peut-être sûrement pour ça que ça me manque un peu moins, même si l'esprit d'être avec 14 personnes de garde pendant 24 heures, faire du sport, faire des repas et ensuite aller faire des interventions ou des interventions qui peuvent être plus ou moins difficiles, bah ça peut manquer.
Oui, parce que vous étiez dans quelle caserne là-bas ? Enfin, comme vous étiez volontaire, ça dépend des casernes. Il y a des casernes plus petites où là, on est appelé, quand ça sonne, on y va en vitesse.
Ouais, j'ai connu ça. Exactement.
On passe un certain temps
exactement
à la caserne.
Ouais, j'ai connu ça. Donc moi, je suis encore, parce que je suis pas encore, j'ai pas totalement arrêté. Je suis dans le département des Yvelines, qui est un gros département. Ouais. Et j'ai connu au tout début, j'étais dans un tout petit centre où, en gros, je descendais à vélo quand mon bip sonnait, ouais, où mon père m'emmenait en voiture quand c'était la nuit. Et puis ça a duré un an. Ensuite, après, la caserne où j'étais a fusionné avec un très gros centre.
Ouais, c'est ce qui se
passe. Et voilà, là, c'était un centre où on faisait entre 5 et 6 000 départs à l'année. Donc, si vous êtes à la première ambulance, vous faites en moyenne entre 13 et 15 départs. Donc, vous ne voyez pas vraiment la journée passer, quoi.
Ouais, d'accord. Et alors, justement, là, en tant qu'entrepreneur, il y a ce côté adrénaline. En fait, chez les pompiers, c'est ça. Il y a un côté adrénaline, quand même. Hein.
Tout à fait.
Prendre des décisions rapidement et puis responsable. On est responsable. C'est sur nous que ça repose. L'entrepreneuriat, c'est ça ?
Bah, indirectement, être CEO de boîte, c'est aussi un peu ça. C'est prendre des décisions, les assumer, prendre les décisions pour les autres. On a une certaine responsabilité. Ensuite, après, on n'est pas tout seul. C'est aussi, moi, la grande force de Medicalib, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à constituer une équipe autour de moi en qui j'ai confiance, qui est capable de mener des projets et qui, en gros, maintenant, moi, je me vois un petit peu plus comme un capitaine de navire. C'est je donne le cap, j'essaie de trouver les meilleures conditions pour lesquelles mes seconds ou en tout cas mes adjoints soient dans les meilleures conditions pour donner leur plein potentiel. Et voilà, et c'est aussi ça, c'est une évolution d'une start-up aussi. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, moi, j'étais capable de tout faire, c'est-à-dire du marketing digital, à répondre aux patients pour leur trouver un professionnel de santé, à faire de la finance et de la compta. Et maintenant, mon but, c'est de recruter des gens qui sont plus compétents que moi, plus performants que moi. Alors, c'est pas tout le temps facile quand on est un peu un compétiteur, mais pour le bien de sa start-up et le bien de sa boîte et le bien aussi de ses clients et des patients, je pense que c'est la meilleure chose. Voilà, c'est
une vraie satisfaction. Apprendre à déléguer, en fait.
Ouais, c'est apprendre à déléguer, c'est apprendre aussi à accepter qu'on n'est pas capable de tout gérer.
Ouais. Et ça, vous avez eu du mal au début ?
Bah, je pense que quand vous avez créé quelque chose, vous avez tout mis en place, c'est aussi parfois difficile de se dire qu'on ne maîtrise plus tout, quoi. Et que, mais que c'est aussi très, très jouissif de se dire « Bon, bah voilà, j'ai réussi à créer quelque chose qui est capable de marcher sans moi. » C'est un peu schizophrénique, c'est-à-dire on a envie toujours d'avoir...
d'être le meilleur.
D'être le meilleur, d'avoir un impact. Et d'un autre côté, la vraie satisfaction, c'est quand tout roule, tout se développe, il y a des prises d'initiative, les gens gèrent leur sujet sans qu'on ait besoin de les aider. Et ça, c'est plutôt ultra intéressant. Quand les autres sont force de proposition, vous font penser à des choses sur lesquelles vous n'avez pas pensé. C'est à la fin, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est aussi pour ça que je retrouve un peu le côté un peu pompier. Moi, j'ai toujours été très dans les sports collectifs. Ouais. Et j'ai toujours trouvé la victoire un peu plus belle à plusieurs que seul. Alors ça, après, c'est un point de vue. Il y a des gens qui préfèrent être seul face à l'effort. Moi, je trouve que l'émulation collective, elle est plutôt plus intéressante.
Ouais, ensemble, on va plus loin.
Ouais, j'aurais tendance à dire ça. Et c'est sûrement plus agréable. Moi, j'ai grandi 18 ans avec 14 mecs à faire des gardes avec 14 personnes, tout. Je trouve ça plus sympa en fait. L'ambiance est meilleure que juste être dans son coin, même si ça n'empêche pas que j'ai des moments où je suis seul pour réfléchir à où est-ce qu'on emmène Medicalib, où est-ce que le marché de la santé va et comment on peut le mieux accompagner les patients et les professionnels de santé. Mais réfléchir à plusieurs, c'est quand même être challengé, c'est beaucoup plus intéressant.
Ouais. En tout cas. Et ça, votre équipe, c'est le cas, vous le challenge ?
C'est le but, on essaye en tout cas. Ensuite, après, c'est jamais simple. On a aussi une position de CEO, donc l'idée, c'est d'essayer d'apporter les meilleures conditions dans lesquelles, en gros, chaque partie prenante va pouvoir vraiment apporter un point de vue, une vision. Et ensuite, après, il faut qu'il y ait des personnes qui arbitrent. C'est aussi ça, la responsabilité d'être CEO, c'est de dire, l'idée qui est proposée, elle me paraît bien ou elle ne me paraît pas bien, et pourquoi, et comment on peut essayer peut-être de la rendre bien. C'est aussi ça, prendre des décisions. Mais je pense qu'il faut aussi avoir un discours très clair. Moi, avec les membres du CODIR que j'ai recruté au fur et à mesure, j'ai toujours été très clair. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, les règles du jeu sont tout de suite affichées. Proposez des choses, mais il faudra aussi accepter le fait que parfois, tout ne sera pas accepté. Et ce n'est pas contre la personne, c'est juste pour le bien-être, parce que on va essayer, il faut prendre des décisions. Toutes les décisions sont importantes dans une start-up, parce que ça peut avoir un impact sur la vie sur plus ou moins long terme.
Et alors, aujourd'hui, les décisions, vous les prenez d'abord vous les validez avec votre cofondateur. Comment ça se passe ?
Alors, Mathieu, lui, il a arrêté l'aventure Medicalib en 2018. Alors, pour une multitude de raisons, mais il venait de l'univers du cinéma, et que en gros, quand on structure une société après une levée de fonds, les conditions de liberté sont pas obligatoirement celles qu'on a connues au début.
Ouais.
Voilà, et c'est pas obligatoirement les envies de chacun qui ont monté des startups. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui développent une idée, qui la font éclore, et puis ensuite après qui en recrée une autre, parce que ensuite l'industrialiser, faire scaler cette entreprise, c'est pas obligatoirement quelque chose qui les intéresse. Et c'était un peu ce sentiment qu'avait Mathieu, et donc on a réussi à se séparer en juin 2018. Et donc en gros, ensuite après, moi j'ai recruté un codir sur lequel je m'appuie, où en gros l'idée, c'est de vraiment réfléchir à où est-ce qu'on emmène Medicalib et de prendre des décisions les meilleures pour Medicalib. Alors ensuite, ça n'empêche qu'on fait des erreurs, même quand on a pris une décision qui était collégial, par rapport aux éléments qu'on avait. Mais on essaye de faire comme dans ma précédente carrière, pas de backtrading, c'est-à-dire, mais on n'aurait pas dû faire, parce que si à un moment on a pris cette décision, on l'a pris parce qu'on avait au regard de tous les éléments. Ensuite, après, faire le constat qu'on n'avait peut-être pas tous les éléments pour prendre la bonne décision. Ça, c'est réel, mais sans vouloir, parce qu'on a pris cette décision, c'est jamais la bonne chose.
Oui, jamais ressasser, en fait.
Exactement. C'est jamais... c'est en salle de marché, c'est ce qu'on dit, c'est pas faire de backtrading, c'est de dire... En fait, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Mais on peut pas le savoir. Si à un moment on prend cette décision à un instant T, c'est qu'on considère qu'on a à peu près tous les éléments, ou sinon on n'est pas très bien dans sa tête, mais qu'on a pris en compte tous les éléments qu'il y avait à notre portée pour prendre la meilleure décision, en tout cas pour Medicalib ou en tout cas pour la société.
Donc aujourd'hui, Medicalib, c'est une vingtaine de personnes ?
Maintenant, on est 25. On continue de recruter sur différents postes, data scientist, développeur web, front back, coordinateur de soins, designer, product manager, product officer. Sur la comptabilité aussi, on a vraiment des postes qui sont ouverts sur vraiment tous les champs, tous les diplômes, parce qu'on croit, comme je vous disais, sur différentes verticales, l'accompagnement des patients, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des professionnels de santé. Donc on a vraiment besoin, on a des ressources, on a une forte croissance, et cette croissance, il faut qu'on puisse l'absorber, et donc ça ne se fait qu'avec des recrutements.
Et tous ces postes sont basés à Paris ?
Oui, pour le moment, on est basé à Paris, pas loin du Trocadéro, mais bon, les locaux dans lesquels on est vont sûrement pas être suffisants pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui vont nous rejoindre très prochainement. Ensuite, après, on s'ouvre au remote, au full remote sur certains postes, comme les postes de développeur, parce que c'est à la fois des postes qui sont tendus, mais aussi c'est parce que c'est des postes qui nécessitent parfois d'être, on va dire, un petit peu plus solitaire, d'être beaucoup plus concentré que des postes de marketing ou de produit où il faut une vraie interaction avec soit nos utilisateurs, soit avec l'équipe dirigeante, toutes ces choses-là, et qu'une réunion en physique, c'est toujours mieux qu'une réunion à distance.
Et alors les projets là, pour les mois, l'année à venir de Medicalib ?
Et en gros, là, il y a eu la sortie de l'application à destination des pros qui leur permet de gérer le quotidien. Avant, on était sur une web app. Maintenant, on a décidé de passer le cap de l'application mobile pour avoir une vraie relation privilégiée avec les professionnels de santé. Et ça, c'est un peu la première brique du Medicalib de demain, c'est-à-dire vraiment l'outil complet de l'administratif, de la gestion administrative des professionnels de santé, où ils vont gérer la vie de A à Z de leurs patients quand ils vont les prendre en charge. Pas uniquement les patients Medicalib, hein, parce qu'on n'est pas non plus la source majoritaire des patients pour les professionnels de santé qui travaillent avec nous, même si on aspire à le devenir. Et puis ensuite, ça va être aussi un meilleur accompagnement des entreprises. Le Covid a montré que les entreprises avaient besoin d'être accompagnées sur la vie et la santé des salariés. On l'a vu avec les dépistages, on le voit avec la vaccination. Et en gros, il y a pas mal de choses à faire sur l'accompagnement pour en gros capitaliser sur notre réseau de professionnels de santé. En fait, on a une vraie disponibilité, une vraie flexibilité en termes de réaction en s'appuyant sur notre réseau, avec 20 000 pros qui sont disponibles et qui peuvent se déplacer soit sur site ou soit au domicile des salariés demain. Et donc ça, c'est une vraie force. Et puis, se développer aussi sur d'autres verticales. On l'a vu, kiné, infirmière, sage-femme, c'est bien, mais c'est pas complet. Il y a plein d'autres métiers de la santé qui se déplacent à domicile, ostéopathe, chiropracteur, pédicure, podologue. Et donc, on pense que Medicalib, en tout cas, c'est mon objectif avec l'ensemble de l'équipe de Medicalib, c'est d'être demain la solution, la référence de la santé à domicile, pour que demain, n'importe quel patient qui doit avoir des soins à domicile ait le réflexe medicalib.fr.
D'accord, que ça devienne automatique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour les mois qui arrivent
Continuer à avoir une équipe aussi forte et aussi robuste comme on l'a eu là sur les derniers mois. Ouais. Continuer à
une équipe qui a beaucoup travaillé, hein, c'est ce que vous disiez.
Oui, c'est exactement ça. En fait, on a été très sollicité pour le Covid, pour la vaccination. Ouais. Il a fallu qu'on puisse s'adapter pour accompagner les entreprises. On a essayé de proposer des solutions, d'avoir une vraie relation gagnante avec les entreprises dans une situation un petit peu compliquée où en gros elles étaient perdues. Il ne faut pas oublier qu'en septembre-octobre 2020, le dépistage en entreprise, c'était la première fois que le gouvernement autorisait les entreprises à organiser des séances de dépistage sur un site de travail. Donc c'était un flou pour les DRH, pour la médecine du travail. Medicalib, on a été les premiers à sortir le guide du dépistage en entreprise pour accompagner au mieux. Et donc, on a vraiment accompagné bien les entreprises. Et donc, voilà, donc on a beaucoup travaillé. On continue de le faire parce que malheureusement, le Covid et les soins à domicile ont repris. Donc, on continue vraiment de pas mal charbonner, si on peut dire.
Là, le dépistage, vous en faites encore beaucoup ?
Oui, beaucoup. Avec la mise en place du pass sanitaire, il y a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent parce que, en fait, les événements d'entreprise ont repris, les séminaires, les choses comme ça. Je pense que la plupart des gens avaient quand même envie de retrouver un peu du contact humain, tout en essayant de garantir la sécurité, la responsabilité des entreprises, de dire voilà, l'ensemble des participants à cet événement, il est sûr. Et donc, on met en place des dépistages. Et puis, maintenant, les entreprises ont repris les voyages à l'étranger avec certaines contraintes, certains pays qui veulent des tests PCR ou antigéniques. Et donc, Medicalib apporte une solution où on est capable de se déplacer au pied de l'aéroport pour dépister les personnes qui arrivent, et la même chose avant qu'elles repartent.
Très bien. Eh bien, merci infiniment, Nicolas Baudelot. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Medicalib. Merci d'être venu sur notre plateau. On se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Objectif Startup.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.